Si vous suivez l'actualité, vous avez remarqué qu'en ce moment, l'actualité politique est quand même très chargée en France. Aujourd'hui, ça va être le premier tour des primaires de la droite et du centre. Et il y aura le second tour la semaine prochaine. Et la personne qui va sortir des urnes, la personne qui sera choisie, va ensuite présenter un programme et sa candidature et va tout faire pour pouvoir être élue. Et on a aussi quelqu'un d'autre de l'autre bord qui a présenté sa candidature pendant la semaine. Et la semaine prochaine, il y a même encore quelqu'un peut-être de droite qui va présenter aussi sa candidature. Et tous ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est gouverner la France, gouverner le pays. Alors, ils vont faire campagne, ils vont présenter leur programme. Mais il y a un autre gouvernement que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, un autre règne, c'est le règne de Dieu. C'est le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce royaume-là, c'est que les promesses sont tenues. Ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est extraordinaire dans ce royaume-là, c'est qu'il y a déjà une grande part du programme qui est accomplie. Et puis, il y en a une qui reste à accomplir. Mais cette deuxième partie du programme va s'accomplir parce que il y a déjà toute une partie du programme qui a déjà été accomplie pour nous. Et on va fixer nos regards sur le royaume de Dieu. Parce que, en tant que chrétien et en tant que chrétienne, en tant que croyant, nous avons besoin de recevoir et de partager la vision du royaume. Nous avons besoin de nous unir sur la vision du royaume. Allez, je voudrais voir premièrement avec vous que le royaume de Dieu est une réalité actuelle. À l'époque de Jésus, le royaume de Dieu était très attendu. Les Juifs du premier siècle de notre ère croyaient que l'arrivée du royaume de Dieu marquerait la fin des temps. Et il y aurait un certain nombre d'événements qui se produiraient. Tout d'abord, tous les Juifs qui habitaient en dehors du pays d'Israël reviendraient habiter en Israël. Tous ceux qui habitaient à Rome, à Alexandrie, en Asie, tous ces gens-là seraient réunis, tous les Juifs rentreraient dans le pays d'Israël. Un autre élément, c'est que toutes les nations, tous les païens reconnaîtraient que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Ça veut dire que Dieu régnerait sur le monde entier, sur toutes les nations. Une autre conséquence de l'établissement du règne de Dieu, c'est qu'il y aurait la paix dans le monde entier, une paix universelle. Et un autre élément, c'est que le monde serait entièrement débarrassé du mal. Le diable, les forces spirituelles mauvaises, les démons seraient définitivement vaincus. Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de maladie, il n'y aurait plus de souffrance, il n'y aurait plus de tristesse. Et ça, c'est un événement qui devait aboutir à la fin de l'histoire, à la fin des temps. Et voilà que Jésus apparaît, Jésus arrive, et quand il vient, il proclame que le royaume de Dieu est déjà là. Il proclame que le royaume de Dieu est déjà présent. Et ça, il l'a exprimé de différentes manières. On n'a pas le temps de revenir sur tous les textes où Jésus proclame l'arrivée, la présence du royaume de Dieu. Mais il a commencé en disant « Le royaume de Dieu est proche ». Et puis il a continué en proclamant « Le royaume de Dieu est venu vers vous ». Ou alors « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Ou « Le royaume de Dieu est en vous, est au-dedans de vous ». Par ces différentes paroles, Jésus proclame l'actualité et la présence du royaume de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de son message, de sa prédication. Jésus a proclamé « Dieu commence déjà à régner ». C'est vrai qu'il viendra un moment où il établira son règne sur le monde entier, mais déjà maintenant, il règne. Et l'entrée dans le royaume de Dieu est déterminée par la manière dont nous nous positionnons par rapport à l'évangile et à la personne de Jésus. Si tu reconnais que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Et tu es au bénéfice de tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité, de tout le plan, tout le programme qu'il avait fait, le programme de bonheur, le programme d'épanouissement, le programme de félicité qu'il avait prévu en créant l'humanité. En entrant dans le royaume de Dieu, tu peux en bénéficier. La paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là. Dieu ne règne pas encore sur le monde entier, mais il règne là où, en acceptant le message de l'Évangile, on le laisse régner. Et c'est pour ça qu'il y a des parcelles de royaume, en fait. Alors là, quand on est réunis tous ensemble et qu'on constitue et qu'on forme cette Église, toutes les parcelles du royaume sont réunies. Et là, le royaume est un peu plus compact. Mais comme le royaume est là où on accepte Jésus, où on accepte que Dieu règne sur nos vies, dans une même famille, vous pouvez avoir le règne de Dieu sur des membres de la famille, mais pas sur d'autres. C'est ce qui fait que dans un quartier, dans une maison, Dieu peut régner, mais dans la maison d'à côté, Dieu ne règne pas. C'est ce qui fait que dans une entreprise, sur notre lieu de travail, dans un bureau, Dieu règne, mais dans le bureau d'à côté, Dieu ne règne pas. C'est comme des parcelles de territoire qui sont comme ça répandues là où nous sommes, parce que nous avons laissé Dieu régner sur notre vie en acceptant Jésus comme notre sauveur. Jésus a accompli des miracles pour démontrer l'actualité et la présence du règne de Dieu. Les exorcismes qu'il a accomplis lorsqu'il a libéré les personnes qui étaient aux prises avec des esprits mauvais montrent que les puissances du mal sont vaincues. Et Jésus le dit clairement. On peut lire ça dans Matthieu, chapitre 12, verset 28, lorsqu'il dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Cette libération des esprits mauvais annonce et préfigure le moment où il n'y aura plus, le mal sera totalement éliminé de la terre. Donc, une libération spirituelle de ce genre-là montre que Dieu règne. C'est la même chose pour les guérisons. Les guérisons, elles préfigurent le temps où la maladie, qui est un effet de ce monde déformé, corrompu, n'aura plus de pouvoir. C'est la même idée. Ce que Dieu fait en nous, il le fait par amour pour nous, c'est vrai. Et il le fait aussi pour sa gloire. Souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle né. C'est une histoire qui nous a raconté dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Alors que Jésus voit un aveugle de naissance, les disciples vont lui poser cette question. Ils vont lui dire, mais Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Ils se posaient la question, ils ne comprenaient pas bien. Et Jésus leur fait cette réponse. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Alors c'est vrai que l'aveugle va bénéficier de cette guérison parce qu'il va pouvoir retrouver une vie normale. Alors que les aveugles étaient marginalisés à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de pourvoir leurs besoins, de travailler, là il va pouvoir se réinsérer dans la vie et trouver une vie normale. Il est le bénéficiaire de ce miracle. Mais en même temps, Jésus dit ce miracle a lieu pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que le règne de Dieu se manifeste. C'est la même chose avec la maladie de Lazare. Ça nous est raconté quelques chapitres plus loin, au chapitre 11 et au verset 4, alors qu'ils apprennent la nouvelle, là, les sœurs de Lazare font connaître à Jésus que Lazare est malade. Et puis Jésus dit à ses disciples que la maladie qui va emporter Lazare est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La résurrection de Lazare va permettre à Lazare de retrouver la vie. Alors bien évidemment, il est le bénéficiaire de ce miracle. Et Lazare va pouvoir, et ses sœurs aussi, Marthe, Marie, vont pouvoir retrouver leur frère. Ils sont aussi les bénéficiaires de ce miracle. Mais Jésus dit que ce miracle a lieu parce que, pour la gloire de Dieu et pour que le Fils de Dieu, pour que Jésus soit glorifié. C'est cette vision du royaume que nous sommes appelés à recevoir et à développer. C'est celle que nous sommes appelés à cultiver en nous. C'est très important de comprendre cela. Chaque exaucement de prière, chaque guérison, chaque bénédiction, chaque direction que nous recevons pour notre vie, chaque victoire que nous avons fait surgir le royaume de Dieu. Glorifie Dieu et montre que Dieu règne. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui manifeste sa souveraineté à partir du moment où nous acceptons cette souveraineté. Mais chaque bénédiction, chaque action de Dieu dans notre vie n'est pas simplement que pour notre bénéfice, mais pour la gloire de Dieu, parce qu'il manifeste son règne, son royaume. Si nous considérons que Dieu accomplit cela uniquement pour notre confort personnel, nous passons à côté de l'œuvre gigantesque que Dieu veut accomplir depuis 2000 ans. Chaque bénédiction nous invite à porter notre attention sur Dieu qui règne. On a des témoignages extraordinaires de ce que Dieu accomplit aujourd'hui, là, plus de 2000 ans après qu'il ait commencé à prêcher, qu'il ait lui-même accompli des miracles en touchant de ses mains les malades. Quand j'entends que quelqu'un, à cause de la décalcification de ses os, va subir une amputation, que non seulement la décalcification est stoppée, mais que en plus, on assiste à une recalcification des os. La chose qui me vient à l'esprit, c'est Dieu règne, Dieu règne. Lorsque j'entends, comme ça nous a été partagé le témoignage, que quelqu'un est touché par un cancer, que c'est impossible de l'opérer, c'est le témoignage qui nous a été donné par Aurélie hein, pendant le courant de cette semaine. Quelqu'un qui est elle-même cancérologue, enfin qui est elle-même docteur, qui s'est fait sa propre radio, ses propres examens, qui voit qu'elle est condamnée, et que par la prière, par l'intercession qui a été faite en sa faveur, elle retrouve pleinement la santé, on ne peut pas se dire autre chose que Dieu règne, Dieu règne. Il y aurait tellement de témoignages comme ça qu'on pourrait mettre les uns après les autres et qui montrent que Dieu règne. Quand on a plusieurs témoignages de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de femmes qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas enfanter. Et voilà que subitement, après que on ait prié pour elles, elles se retrouvent enceintes. Dieu règne, c'est lui qui ouvre le sein maternel. Dieu règne. Lorsque j'entends des personnes qui disent « je suis dans une situation compliquée, mais Dieu a pourvu à mes besoins matériels », Dieu règne. Chaque bénédiction manifeste la présence et le royaume de Dieu. Ce royaume que Jésus a proclamé, ce royaume que Jésus a prêché, il se manifeste à chaque fois qu'il nous bénit. Avoir la vision du royaume, c'est pas simplement regarder à ce dont nous bénéficions, mais c'est prendre conscience du règne de Dieu et de la manifestation de la gloire de Dieu. On ne peut pas s'arrêter simplement à ce que Dieu fait pour nous. Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Et ce qu'il fait pour nous nous conduit à aspirer à ce que son royaume et sa gloire se manifestent. Ça, c'est spirituel. On a vraiment besoin de l'action du Saint-Esprit pour qu'il dépose cette vision dans notre cœur. Non seulement qu'il la dépose, mais notre responsabilité, c'est de l'entretenir. Chaque chose que tu fais manifeste ton règne. Chaque miracle que tu accomplis, c'est pour que ton royaume avance. C'est pour que les gens qui nous entourent voient que tu es vivant, que tu es souverain. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que le royaume de Dieu est en croissance continuelle. Jésus a utilisé plusieurs images pour parler du royaume de Dieu, et il y en a deux en particulier qui nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est la parabole du grain de moutarde. On va la lire ensemble, c'est dans Matthieu 13, et versets 31 et 32. Jésus raconta une parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde, ou un grain de sénévé hein, dans certaines traductions, qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus est en train de prendre l'exemple d'une toute petite graine qui peut donner un immense arbuste. Et effectivement, une graine de moutarde, lorsqu'elle est mise en terre, lorsqu'elle est arrosée, elle peut donner naissance à un arbuste qui peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Et quand cette petite graine, on l'a dans le creux de la main, on n'imagine pas forcément qu'elle va donner naissance à un arbuste aussi grand. L'arbre dont il est question dans la parabole, c'est l'image du royaume. C'est une image qu'on trouve d'ailleurs, qui est déjà utilisée dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel et dans Daniel. Et les oiseaux qui viennent se poser sur les branches de cet arbre, ce sont les populations qui sont réunies au sein de ce royaume. Dans l'Antiquité, il y a beaucoup d'empires qui se sont succédés les uns aux autres. On en a quelques-uns dont il est question dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire romain. Et ces empires réunissaient d'autres royaumes, des nations, des populations. Et là, Jésus est en train de dire, mais le royaume de Dieu, même si ça part à partir de pas grand-chose, 12 hommes hein, à l'origine, ce royaume, il est destiné à grandir et à réunir des milliers, des milliers et des milliers de personnes, des populations entières. Jésus établit un contraste entre une graine minuscule qui, une fois jetée en terre, donne naissance à quelque chose de très grand. La vision du royaume, c'est ça. La manifestation du règne de Dieu, c'est quelque chose qui est en croissance perpétuelle. C'est ce qui doit alimenter notre foi. C'est ce qui doit alimenter notre motivation pour servir Dieu. Il y a une autre parabole aussi qui a exactement le même sens. C'est celle qui suit la parabole du levain. au verset 33, où Jésus dit « Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, si bien que toute la pâte lève. » Le but de cette parabole est également d'établir un contraste entre la petite quantité de levain et la taille du résultat. Vous savez, le levain, c'est ce bout de pâte fermenté qu'on introduit dans la farine et au moment de la cuisson, le levain il gonfle et il fait lever la pâte. Ça permet à la pâte de prendre une autre dimension. Et le texte nous dit que la femme introduit le levain dans 3 mesures de farine. Alors 3 mesures de farine, ça ne nous parle pas beaucoup parce que ce sont des unités de mesure qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Mais d'après mes recherches, 3 mesures de farine, c'est 35 litres, 35 kilos de farine. Alors déjà, avec 35 kilos de farine, on peut faire du pain. Hein. Étant donné que, bon, si on prend, nous, en tant que Français, notre référence, ça va être la baguette. Une baguette, ça fait entre 200 et 300 grammes. Donc, ça veut dire que avec cette quantité de farine, on peut nourrir plus d'une centaine de personnes. Une baguette chacun. On pourrait, oui, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein, je ne suis pas très bon en maths, mais un peu plus d'une centaine de personnes. C'est encore un contraste entre une petite chose qui est placée dans la pâte et qui donne un grand effet. Et Jésus dit, le royaume, c'est ça. Jésus décrit une action mystérieuse, une action spirituelle, invisible et divine, qui permet au royaume de grandir. Et c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Aucun royaume, aucun empire dans l'histoire des hommes n'a duré 2000 ans. Même les empires les plus forts, l'Empire romain, c'est celui que je connais le mieux parce que je l'ai étudié, il a duré plus de 1000 ans, mais il n'a pas duré 2000 ans. Et là, depuis la prédication de Jésus, depuis la prédication des apôtres, le royaume de Dieu ne cesse de grandir, miraculeusement. Aujourd'hui, l'évangile touche tous les continents. En ce début de 21e siècle, jamais l'évangile n'a touché autant de monde, autant de populations. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire du christianisme, on voit que ce royaume, il a grandi même malgré l'opposition, malgré la moquerie, malgré le fait que les chrétiens aient été marginalisés, persécutés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est le cas en Asie, c'est le cas au Proche-Orient, c'est dans l'actualité. Malgré tout ça, le royaume de Dieu grandit. C'est inévitable. C'est une œuvre divine. Avoir la vision du royaume, c'est comprendre que, à mon niveau, je contribue à la croissance du royaume de Dieu. Notre participation à l'œuvre de Dieu peut paraître minuscule, insignifiante, mais en réalité, elle contribue à une œuvre immense, à une œuvre éternelle. On a peut-être l'impression que l'on ne fait pas grand-chose. On a peut-être l'impression que ce qu'on accomplit dans l'Église, ce n'est pas vraiment très important, mais notre engagement contribue à une œuvre beaucoup plus grande que nous, qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après nous. On a ce malheureux réflexe en tant qu'être humain à toujours tout réduire à notre dimension. Et avoir la vision du royaume, ça veut dire insérer notre action, notre service, notre engagement dans une perspective beaucoup plus large. Ce que je fais, ce que j'accomplis, ce que je dis pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui participe à cette œuvre qui a commencé il y a 2000 ans avec l'Évangile, mais en réalité bien avant, avec l'alliance que Dieu a passée avec les hommes, avec le peuple d'Israël. Je participe à cela. Je participe à quelque chose qui va faire la différence dans ce monde. Alors, on a l'impression, bah ouais, mais on n'est pas beaucoup. Non, mais ce que nous faisons participe à cette œuvre immense, gigantesque, qui existe depuis longtemps et qui est appelée à continuer. Toute contribution demande de la disponibilité et de s'organiser en conséquence. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à l'occasion de la venue de David la semaine passée. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes rendus disponibles pour d'abord, dans un premier temps, préparer ce temps spécial. Il y a eu la soirée des intercesseurs. Vous êtes rendu disponible, vous vous êtes mobilisé, vous avez répondu à la mobilisation générale, à cet appel qui a été fait, que ce soit par la soirée des intercesseurs, que ce soit en prenant du temps pour prier, pour jeûner et prier. Vous avez pris cette disponibilité pour venir assister aux réunions spéciales entre vendredi et mardi. C'est quand même une mobilisation sur une semaine entière. Finalement, on est allé du mardi au mardi, de la soirée des intercesseurs jusqu'à la dernière réunion spéciale dans le cadre de la mission. Vous avez été là. Votre présence a été un soutien pour David qui a annoncé la parole. Votre présence a été un témoignage, parce que si on n'avait été que 4 ou 5, pour les nouvelles personnes qui venaient entendre l'évangile, ça n'a pas du tout le même effet que si on est 100 ou 150. Donc la présence, là, elle est un témoignage. Le fait que de prier aussi pendant les réunions, lorsque les gens s'approchent, lorsque les gens demandent la prière parce qu'ils sont touchés par la maladie, ça aussi, c'est un investissement, c'est le résultat d'une disponibilité. Et puis, il y a tous ceux qui se sont mobilisés aussi pour pouvoir conduire la louange, les leaders de louange, les musiciens. Ils ont pris le temps de répéter, ils ont pris du temps pour pouvoir être là sur les réunions. Ça a été aussi leur investissement. On pense aussi aux techniciens, il y a le son, la lumière, l'image qui a été projetée pour créer les meilleures conditions possibles, de manière à ce que la louange soit audible, que le message soit audible. Et puis il y a les personnes qui ont tenu le stand aussi pour pouvoir donner des Bibles aux nouvelles personnes qui découvraient le message de l'Évangile. Autant de disponibilités qui permettent au royaume de Dieu de grandir. C'est de ça dont il faut prendre conscience. Ce n'est pas simplement de se donner rendez-vous un lundi à 20h. C'est simplement d'apporter sa contribution à cette œuvre gigantesque et éternelle. Cette disponibilité que nous avons, que nous prenons, c'est ce qui fait que le royaume de Dieu grandit. Nous y participons. Chaque implication dans les activités de l'Église, qui est le reflet du royaume de Dieu, est revêtue de cette dimension spirituelle. Je pense au ménage. C'est souvent un exemple qu'on donne, mais c'est tellement vrai. Ça peut paraître une tâche tellement banale, tellement insignifiante, mais c'est tellement précieux de rentrer dans des locaux qui sont présentables, dans des locaux qui sont propres, dans des locaux qui sont accueillants. S'il y avait de la boue par terre, si c'était sale, l'impression que ça ferait sur les personnes qui viennent, même sur nous d'ailleurs, on serait beaucoup moins disposés à nous rencontrer, beaucoup moins disposés même à apporter notre louange, notre adoration à Dieu. Donc cette contribution, elle est importante, elle profite aussi au royaume de Dieu. Elle permet au royaume de Dieu de grandir et d'avancer. Je pense à la maintenance de ces locaux. Il y a un truc qui est vraiment désagréable. Alors moi, je sais pas, moi, ça me tape sur les nerfs. Mais c'est quand vous avez une lampe au-dessus qui fait... C'est énervant. Hein, eh ben, pourquoi ça fait pas ça? C'est parce qu'il y a des personnes qui sont sur la brèche et qui, à chaque fois qu'il y a une lampe qui fait... qui viennent pour la changer. Donc merci à Gérard, parce que là tu m'aides à me contrôler et à travailler ma maîtrise de moi-même. Donc Gérard, avec d'autres, parce qu'ils sont là, parce que s'il y a une porte qui coince, s'il y a une porte qui ne s'ouvre pas bien, ils sont là, s'il faut repeindre un mur, ils sont là. Et tout ça, ça contribue au royaume de Dieu. Et je sais que c'est vraiment dans cet esprit que Gérard et ceux qui l'accompagnent le font. Il y a l'accueil. La première impression qu'une personne nouvelle va avoir quand elle arrive dans cette église, elle détermine si elle revient ou si elle ne revient pas. Ça se joue dans les 2-3 premières minutes. Alors vous savez, quand cette personne elle arrive et qu'elle est accueillie par un beau sourire, quand cette personne elle arrive et qu'elle est accueillie par une bonne poignée de main, quand cette personne elle arrive et puis qu'elle voit qu'on s'intéresse à elle, eh ben ça peut faire toute la différence. Ça peut disposer son cœur à ce qu'il puisse être sensible au message de l'Évangile, à ce qu'il puisse être sensible à la présence de Dieu. La garderie qui permet aux jeunes parents d'assister au culte chaque dimanche matin. Ça, c'est l'aspect pratique. Mais la garderie aussi, c'est le premier contact des enfants avec l'Église. Les gens qui mobilisent pour la garderie, leur souci aussi, c'est adapté bien entendu, mais c'est aussi de pouvoir déjà... communiquer l'Évangile à ses enfants. Le souci que nous avons dans cette Église, c'est de faire en sorte que chaque tranche d'âge puisse être accompagnée dans sa vie spirituelle. Un enfant, même s'il a 1 an, s'il a 2 ans, il est déjà composé d'un corps et d'un esprit. Et donc là, c'est la garderie, c'est aussi le premier contact avec le monde de l'Église, avec cet univers-là, dans lequel il est appelé à passer plusieurs années. C'est ce qui se passe aussi avec le club des enfants, où l'Évangile est communiqué de manière adaptée aux enfants, avec le club des préados, qui propose des activités et des réflexions bibliques à un âge qui est si crucial. un adolescent, un préadolescent, parce que ça commence de plus en plus tôt, vous vous en apercevez, hein, pour vous qui avez des enfants dans cette tranche d'âge, mais ça aussi, entre d'un côté un désir d'indépendance et une rébellion qui se manifeste, et de l'autre côté, ils ont envie d'être acceptés, ils ont envie d'être aimés, ils ont envie de participer, d'appartenir à un groupe. Eh bien, le club des préados, il est là pour ça, avec cette dimension spirituelle. Il y a le groupe de jeunes, bien entendu, aussi, où les leaders accompagnent et enseignent les ados et les jeunes adultes. C'est un point de chute beaucoup pour les étudiants qui viennent à Angers. Ils sont coupés de leur famille, de leurs amis, et là, ça leur donne la possibilité de pouvoir renouveler, de pouvoir faire de nouvelles relations et de pouvoir être encouragés, accompagnés sur le plan spirituel. Et là aussi, il y a tellement de décisions qui se prennent à ce moment-là. La vidéo, la photo. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes dans la civilisation de l'image. À l'époque de Jésus, c'était la civilisation de la parole, la civilisation de l'oral. Quand il y avait une information qui devait être communiquée, qui devait être partagée, c'était le bouche à oreille. C'était par le langage, communication orale. Et puis après, avec l'invention de l'imprimerie, on est passé dans la civilisation de l'écrit. C'est celle que nous avons connue jusqu'à la fin du XXe siècle, ce début du XXIe siècle. Et là, on est en train de passer à un nouveau type de communication qui est la communication visuelle, la communication de l'image avec le développement du cinéma, le développement de la télévision, le développement d'Internet. On ne peut pas faire l'économie de l'image aujourd'hui. La plupart des personnes aujourd'hui qui viennent à l'église, que ce soit les étudiants qui viennent faire leurs études à Angers, la première chose qu'ils font pour trouver une église, ils vont sur Internet. Alors, il faut que le site Internet soit une belle vitrine de l'église. Les nouvelles personnes ici qui habitent à Angers, la majorité nous disent maintenant que la première chose qu'ils font, c'est d'aller soit sur le site Internet, soit sur la page Facebook de l'église. Et la communication, comment elle se fait ? Elle se fait par le biais de l'image. La vidéo nous donne la possibilité de retransmettre le culte qui se passe à Angers à 60 km de là, à Cholet. Mais le fait est, alors ça demande un peu de préparation, que ce sera un plus de pouvoir mettre aussi les messages en images sur le site Internet, parce que c'est ce qui parle aux personnes aujourd'hui. Filmer, prendre une photo, c'est spirituel. C'est pas optionnel, c'est spirituel. La foulée pour la vie, on le fait dans cet état d'esprit-là, permet de contribuer au bien de la ville dans laquelle nous sommes. Savons que c'est Dieu qui nous encourage à cela, de rechercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes placés. C'est une parole de la Bible. Tout l'argent qui est récolté à l'occasion de cet événement humanitaire, il sert à pouvoir participer à la lutte contre le cancer, puisque à chaque fois, c'est reversé au centre anti-cancer Paul Papin, ici à Angers. L'argent qui a été récolté cette année va être investi dans l'acquisition d'une colonne de coloscopie 3D, ce qui va considérablement améliorer les possibilités de diagnostic, les possibilités d'examen. Vous avez peut-être vu l'article qui est paru dans le journal cette semaine et qui annonce cela. Eh bien là, l'argent qui a été récolté, qui va être communiqué, va servir à l'acquisition de cela. Pourquoi ? Il y a une dimension qui est spirituelle. Nous faisons le bien dans la ville dans laquelle nous sommes placés. C'est la même idée qui guide l'activité Tricot, qui permet de fournir des layettes aux prématurés de l'hôpital d'Angers. Croque étudiant, bien sûr, aussi, qui permet de donner de la nourriture, qui permet de donner des produits d'hygiène à des étudiants qui n'ont rien et qui, pour beaucoup, viennent de l'étranger, qui sont loin de chez eux. Ils sont dans une situation où ils sont complètement démunis pour certains. Mais plus que de la nourriture, ils le disent eux-mêmes, il y en a beaucoup qui viennent trouver du réconfort dans le contact qu'ils peuvent établir avec ceux et celles qui les servent lors de la distribution. Croque étudiant, c'est un service qui donne l'occasion aux chrétiens de manifester de la compassion, de manifester de la générosité. C'est l'expression de l'amour que Dieu a pour les hommes. Nous sommes les porte-paroles, les porteurs de l'amour de Dieu lorsque nous accomplissons cela. Aujourd'hui, on a la responsabilité de croque étudiant, mais il y a quelques années en arrière, dans le groupe de jeunes, on avait déjà commencé des distributions alimentaires. Pourquoi ? Parce que parmi les étudiants qui venaient, il y en a certains qui étaient privés de l'essentiel. Je me souviens d'un étudiant qui, quelquefois, ne mangeait qu'un repas par jour. Et quand on a découvert ça, que non seulement il y avait lui, mais qu'il y en avait d'autres, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas s'asseoir sur la même chaise, louer Dieu, adorer Dieu, en sachant que moi, j'ai le ventre plein, et que mon frère, ma sœur, là, qui est là, qui vient à l'église avec moi, il a faim. Et c'est cette pensée-là insupportable qui nous a conduit, par compassion, à commencer à organiser une banque alimentaire au niveau du groupe de jeunes. C'est la compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté. Je parle de croque étudiant, mais puisqu'on a nos amis qui viennent d'Irak et qui justement ont bénéficié de ce service, ce serait intéressant de pouvoir avoir leur témoignage. Est-ce que tu peux venir les présenter, Sandrine, peut-être un peu plus précisément?
Bonjour. Alors nous allons vous parler un petit peu de croque étudiant, juste peut-être rappeler l'action. Donc c'est une action qui permet de donner à manger aux étudiants de la ville d'Angers. Nous travaillons avec le CCAS de la ville d'Angers, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Angers. Et comme dit Xavier, nous participons au Royaume. C'est vraiment une œuvre passionnante où on peut aider un petit peu des étudiants qui sont dans le besoin. Et en fait, c'est pas nous qui traitons les demandes, ce sont les assistantes sociales de l'université et les personnes qui viennent à Croque étudiant, qui peuvent en bénéficier, ce sont des étudiants qui n'ont vraiment pas d'argent pour l'essentiel. Alors ils vont payer ce qu'ils peuvent, et ensuite pour l'alimentation, c'est là où ils vont faire des économies. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on ne peut pas nous se dire que, en plus nous on l'a vécu dans notre famille, où on a faim, où on n'a pas l'argent pour ça, et nous savons, nous l'avons vécu, que Dieu pourvoit. Et en ayant vécu, et les uns et les autres qui sont investis dans Croque étudiant, qui ont à cœur de pouvoir donner ce que Dieu nous donne au quotidien. Vous savez, il y a le verset qui dit qu'on n'a pas à s'inquiéter du lendemain, parce que Dieu pourvoit, si on lui fait confiance, il pourvoit. Et nous souhaitons, en fait, pouvoir les accompagner d'un point de vue alimentaire, donner l'essentiel. C'est du riz, des pâtes. Nous-mêmes, quand nous faisons nos courses, nous allons choisir la meilleure marque de riz. Ils ne peuvent pas se le permettre, ils prennent ce qu'on leur donne. Ils ont tellement besoin. Donc c'est un répondre à un besoin essentiel, et le besoin aussi auquel nous voulons répondre, c'est ce que disait Xavier, c'est de répondre, de participer à son royaume. Nous nous sentons aimés par Dieu, nous nous sentons habités les uns et les autres par le Saint-Esprit qui vient, qui est en nous, qui nous réconforte, qui nous alimente de tout notre être. Et nous souhaitons, de par notre présence, de par notre amour, pouvoir donner du plus, parce que ce sont souvent des gens qui se retrouvent seuls, des jeunes ou des moins jeunes, des familles. On a une famille avec nous ce matin qui a bien voulu nous accompagner et témoigner. Et en fait, ils arrivent souvent de l'étranger, ils se retrouvent, ils arrivent, ils sont seuls. On a peu de Français, parce que quand même en France, il y a un système qui est aidant. Et les étudiants qui viennent sur Croque étudiant, souvent c'est ce que tu disais, mais en fait ils ont besoin du contact, ils ont besoin d'un lien. On prie avant chaque distribution pour que ce soit pas que alimentaire, mais que ce soit vraiment spirituel, pour que dans ce qu'on va donner, ce soit d'abord l'amour de Dieu qui soit transmis. Et c'est vraiment là notre désir. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a toute tranche d'âge dans Croque étudiant. D'ailleurs, si les bénévoles de Croque étudiant, j'en vois là quelques-uns, si vous voulez bien vous lever, juste physiquement, maintenant, hop, hop, hop. C'est gentil de vous lever, merci. Ouais, voilà, je crois que... Alors, les personnes qui viennent de se lever donnent du temps et le font pas pour le faire. Ça veut dire qu'on est content de se retrouver, c'est la famille qui se retrouve. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes générations, on est une famille qui se retrouve. Et on peut œuvrer les uns et les autres ensemble pour... à accueillir d'autres. Et on vit des belles histoires. Alors, du coup, je vais laisser la parole à nos amis qui veulent bien témoigner. Ils vont se présenter. Et donc, on a 3-4 familles que nous aidons à Croque étudiant. Et ça va faire maintenant 2 ans, je crois, que... C'est la deuxième année. Et en plus, ils ont eu un bébé l'année dernière. En plus, on a pu fêter une naissance, c'était sympathique. Donc voilà, je redonne le micro.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous. Nous sommes une famille irakienne, chrétienne. Nous sommes arrivés en France depuis janvier 2015. Et comme vous savez, le début de vie, c'est pas facile de changer la situation. À cause de la situation actuelle en Irak, nous sommes en France. Et le première année, nous étions au centre SELF pour apprendre la langue française, qui n'est pas facile. Donc, il y a une amie qui nous a parlé de cette association, Croc étudiant. Elle nous a dit que tout le monde là, ils sont gentils, ils vont vous accueillir très bien. Et à travers de...
Oui, on a passé par l'assistance sociale de l'Université d'Angers. Nous sommes une famille, donc avec 12 enfants, la situation avec des revenus très limités pour refaire notre nouvelle vie. Moi, j'étais médecin en Irak, mon épouse était étudiante, pharmacienne. Mais ici, on ne peut pas trouver de travail directement. Il faut passer l'examen d'équivalence pour ça, pour le début de la vie, c'est un peu difficile et compliqué. Mais on a la chance de trouver une association qui fait une action très chrétienne. On trouvait la famille avant l'aide alimentaire. Merci beaucoup. C'est avec un grand merci pour toutes les personnes qui participent. Merci beaucoup. Et bon dimanche.
En fait, c'est ce que je veux dire, que c'est pas facile de demander l'aide. Mais le première semaine et les semaines d'après, toutes les personnes, ils nous accueillent vraiment avec une belle sourire, demandent de ces nouvelles, comment les enfants, comment vous allez bien. Et ça, c'est très important. Ça donne envie de venir. C'est très important, oui. Oui. Donc, merci vraiment.
Merci.
Merci beaucoup. Tout cela, tout ce que j'ai évoqué, contribue au royaume. Chaque investissement dans ces domaines manifeste le royaume de Dieu et participe à sa progression. Et il y a un dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est que le royaume de Dieu est une œuvre spirituelle. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Si nous perdons de vue que nous œuvrons pour le royaume, nous tomberons automatiquement dans de la pure activité. Si nous sommes déconnectés de cette vision du royaume, alors nous ferons pour faire. Si je suis caméraman, je peux venir ici et puis simplement filmer. Si je suis technicien de la sono, je peux venir simplement brancher des câbles ou projeter un diaporama. Si je suis investi dans le club des enfants, je peux juste m'occuper des enfants. Faire des jeux, je peux chanter, je peux raconter une histoire de la Bible. Mais par contre, si j'ai conscience que mon service contribue à manifester le royaume de Dieu, mes actions prennent sens et ma motivation est constamment renouvelée. Si on fait les choses pour faire, à bout d'un moment, on est fatigué, on est lassé, on est désintéressé. Mais si je réalise que à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je suis dans mon engagement, là où je suis placé, là où Dieu m'a appelé, j'agis pour le royaume, eh bien, ma vision, elle est constamment renouvelée. Ce que je vais faire va participer à cette croissance. Le sculpteur américain Gudson Borglum, un joli nom, hein, a un jour été sollicité pour effectuer un projet colossal. Ce projet consistait à tailler sur le flanc d'une montagne du Dakota du Sud les bustes de 4 grands présidents américains. Je pense que c'est une image qui est connue. Il s'agit du mont Rushmore. Les visages qui ont été sculptés font 18 mètres de haut. Vous voyez un peu, c'est grand comme un immeuble, un grand immeuble déjà, 18 mètres de haut. L'idée de ce monument, c'était de choisir des présidents qui avaient marqué l'histoire des 150 premières années des États-Unis. C'est une œuvre monumentale. Elle a demandé 14 années de travail. Et bien sûr, pour pouvoir effectuer cette sculpture, Götzenberglum a eu besoin de main-d'œuvre. On a quelques photos des ouvriers qui sont en train de travailler. C'est la diapo d'après. On voit là le chantier. Et il a eu besoin de main-d'œuvre. Et pour pouvoir assurer cet immense monument, Borglum a recruté non pas des artistes, mais des mineurs. Il a embauché des dynamiteurs et des foreurs pour sculpter la montagne et qui travaillaient dans les mines de Keystone qui étaient à côté. Au total, il a embauché 400 ouvriers. C'est phénoménal. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière tout simplement, j'entendais un des ouvriers qui est âgé maintenant, qui a travaillé et qui a participé à la construction de ce monument. Et il disait, et c'est vraiment étonnant, il disait qu'au début, quand il est arrivé sur le chantier avec ses collègues, avec les autres mineurs, il n'avait pas été averti qu'ils allaient sculpter des visages. Il pensait juste qu'ils allaient creuser la montagne comme ils avaient l'habitude de le faire quand ils étaient dans la mine. Et ils ne l'ont découvert que progressivement. Ils suivaient les indications que leur donnait Borglum. Et puis au bout d'un moment, ils se sont aperçus que là où ils dynamitaient, là où ils taillaient avec le marteau-piqueur, hein, c'est pas avec un marteau et un burin, avec le marteau-piqueur, ils se sont aperçus qu'il y a un œil qui est apparu, ils se sont aperçus qu'il y a un nez qui est apparu, et puis petit à petit, c'est le visage de la première sculpture, celle de Washington, qui est apparu. Et là, ils ont vu qu'ils participaient carrément à autre chose. Et dans l'interview, l'ouvrier disait, mais là, à partir de ce moment-là, alors qu'on a vu le visage apparaître, on a compris qu'on faisait quelque chose de beaucoup plus beau que de creuser la montagne. Au début, notre travail, il était purement technique, il était fonctionnel et il était fatigant parce que certains des ouvriers, ils travaillaient dans la mine et après leur temps dans la mine, ils venaient travailler pour creuser la montagne et construire, sculpter les visages. Mais après, quand on s'est aperçu que chacun d'entre nous, en faisant ce que Borglum disait, ont participé à construire un immense monument qui était destiné à être vu de très loin et à glorifier notre nation, à glorifier notre pays, ça a créé quelque chose de nouveau. On s'est aperçu qu'on travaillait pour quelque chose de plus beau, de plus magnifique, de plus grand que ce qu'on pensait. Et je me disais, mais c'est exactement la vision du royaume. Se rendre compte que ce que je fais, ce n'est pas de la pure activité, mais c'est une précieuse contribution à ce que le royaume de Dieu soit toujours plus visible. À ce que les gens qui nous entourent puissent voir que Dieu se manifeste, que Dieu est vivant, que Dieu agit. Si notre service se résume à des plannings, à des réunions, à de l'organisation, à de l'activité, il y a des chances que l'on considère le service comme quelque chose de fatigant, comme quelque chose de lassant, de décourageant. Mais l'œuvre de Dieu, parce que c'est une œuvre spirituelle et non technique, elle est destinée à créer une motivation qui revient toujours. Et la motivation à servir le Seigneur, elle dépend du renouvellement de la vision du royaume. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Si nous ouvrons notre cœur, si nous voulons comprendre cela, si nous voulons saisir cela, le Saint-Esprit va déposer cette vision en nous. Et c'est ce qui nous permettra d'aller de l'avant. Nous réalisons que notre service, même s'il paraît modeste, il participe à manifester le royaume de Dieu. Nous réalisons que notre service contribue à construire quelque chose de grand et de beau qui dépasse largement nos actions et nos compétences. Quand je viens faire le ménage, le coup de chiffon que je donne sur la chaise peut contribuer à changer une vie. C'est ça la vision du royaume. Ce n'est pas simplement un geste mécanique que je vais faire, mais c'est que ce geste-là va permettre à quelqu'un de recevoir un message qui peut transformer son existence, qui peut réorienter sa vie. Quand, en tant que chanteur ou en tant que musicien, je viens tôt le dimanche matin, alors que j'ai eu une semaine chargée, et que je réalise que ce que je vais faire, c'est pour permettre aux personnes qui vont venir une heure après d'exprimer leur adoration et de faire l'expérience de la présence de Dieu. Lorsque je réalise que là, lorsque je vais commencer à jouer du piano, à jouer de la guitare, à élever la voix, c'est ce qui va permettre à des personnes de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie, pour qu'ils puissent se réjouir d'adorer Dieu, mais que, pour que Dieu puisse aussi déposer les choses dont nous avons besoin dans notre vie. C'est ça qui va nous motiver, c'est ça la vision du royaume. Quand je filme, je ne vais pas simplement utiliser une caméra, mais je réalise que, en fait, je vais permettre à la parole d'atteindre une population qui se trouve à 60 km de là et qui permet à une église d'être ouverte tous les dimanches, ce qui n'était pas possible il y a encore 2 ou 3 mois. C'est la vision du royaume. Quand j'installe un micro et quand je branche un câble, c'est pour permettre d'entendre non pas tant la voix du prédicateur que la voix de Dieu qui peut faire la différence dans une vie. Quand je donne de la nourriture plus que de rendre service, je suis le porte-parole de l'amour de Dieu. Dieu règne. Je participe au royaume de Dieu. Tout cela mis ensemble, comme les ouvriers là, sur le mont Rushmore, ça permet de construire quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose qui rend visible le royaume de Dieu. On va prier ensemble. Et pour prier, on va se souvenir de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. En tant que chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus, nous recevons son enseignement. Et il a appris à ses disciples à prier. Et Jésus a appris à ses disciples à prier en demandant « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand Jésus demande à ses disciples de prier ainsi, il leur demande de se sentir concernés par le royaume de Dieu. Vous devez demander « Que ton règne vienne ». Ça veut dire que vous devez vous sentir concernés par le royaume de Dieu, par la manifestation et la visibilité du royaume de Dieu. Vous êtes appelé à aspirer à ce que le royaume de Dieu se manifeste. C'est une des choses qui doit nous unir en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Nous devons être unis dans cette aspiration. Que ton règne vienne, que ton règne soit visible dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que j'accomplis, dans le service auquel tu m'appelles. Que ton règne vienne. On peut prier pour que le règne de Dieu vienne à la fin des temps et ça traduit notre espérance qu'un jour il s'établisse sur ce monde. Quand il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, ça fait partie de notre foi, ça fait partie de notre espérance. Mais cette prière, elle peut aussi être comprise comme une demande pour que Dieu règne maintenant, pour que son règne avance, pour que son règne gagne du terrain, pour que son règne grandisse dans ce temps présent. Dans la mesure où Dieu a choisi d'associer les hommes à son œuvre, nous sommes appelés à prendre part à cette œuvre. C'est une responsabilité que partagent tous ceux qui ont demandé à Dieu de régner sur leur vie. Et il y a peut-être bien des pensées qui peuvent venir dans notre esprit en se disant, je sais pas, voilà, je suis tellement occupé, puis on est tellement ici, c'est les autres qui vont faire. Vous savez, si vous pensez ainsi, vous avez raison. C'est exactement ce qui va se passer. C'est les autres qui vont faire. C'est les autres qui vont toujours faire. Et ça augmente la fatigue. Et alors que le service doit être quelque chose d'épanouissant, pour certains, ça peut devenir quelque chose de lourd parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Ou alors on peut se sentir incapable, dire mais quelles sont mes compétences, moi derrière une caméra, moi derrière un ordinateur. En fait, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie les gens qui l'appellent. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, votre vie elle est guidée par la foi, par la confiance. C'est juste un pas à faire. Alors que notre réflexe est de limiter nos défis, le service nous donne l'occasion de défier nos limites. C'est la logique dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens. Alors Seigneur, donne-moi cette vision du royaume de Dieu. Seigneur, nous levons les mains vers toi. C'est vrai que nous pouvons nous sentir insuffisants. Nous avons l'impression que ce que nous faisons, ce n'est pas grand-chose. Mais en réalité, c'est tellement énorme. C'est une pierre, c'est une brique qui est posée dans la construction et dans la croissance du royaume de Dieu. Et je te bénis, je te remercie pour tous ceux qui s'engagent. Je te remercie pour tous ces chrétiens et ces chrétiennes qui ont répondu présents, qui sont mobilisés la semaine dernière, qui ont été là, présents, qui ont témoigné, qui ont prié, qui ont chanté, qui ont été à la technique. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces ouvriers qui ont répondu à l'appel. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour l'œuvre que tu as accomplie, parce que maintenant, ce n'était pas simplement de faire des réunions. Ce qu'on s'attend, c'est à recevoir des témoignages, comme pour toutes les autres missions, de l'œuvre que tu accomplis, de miracles, de prodiges qui change les vies, qui sauve les personnes, qui leur donne l'espérance où il y avait le désespoir, qui leur donne la santé où était la maladie. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit réjoui parce que tu te seras glorifié au travers des miracles que tu as faits. Ces miracles, ils ont été possibles parce que chacun a été disponible. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas nous reposer sur nos compétences et nos capacités parce que nous ne voulons pas faire pour faire. Nous voulons avoir cette vision du royaume pour croire que c'est toi qui agis au travers de nous. Et même si quelquefois nous pouvons être inquiets, nous avons cette assurance que tu marches à nos côtés, que tu es avec nous, tu es notre secours, tu nous restaures, tu nous fortifies. Cette vision du royaume, c'est ce qui nous permettra d'avancer et de voir de grandes et belles choses. Nous construisons ensemble. Seigneur, mais unis-nous, Seigneur, ce matin. Unis-nous dans cette aspiration à ce que le royaume de Dieu soit toujours et encore plus visible. C'est notre désir, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que tu règnes? Qu'est-ce que je peux faire pour que ton royaume soit visible? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution au royaume de Dieu? À cet arbuste qui reçoit de nouvelles populations, à cette pâte qui lève. Quelle peut être ma contribution au royaume? Seigneur, que par ton esprit tu nous éclaires. Affranchis-nous de nos craintes. Affranchis-nous, Seigneur, de ce qui peut nous freiner. Mais unis-nous. Nous voulons être un cœur, une âme, unis dans l'aspiration, unis dans l'action. C'est l'œuvre de ton esprit, c'est ce que nous te réclamons. Seigneur, appelle-nous, Seigneur, ce matin. Appelle chacun d'entre nous. Pour la gloire de ton nom, pour le royaume de Dieu. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous où aller. Je vous le sors de la dalle.